Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale que vous propose Radio Présence chaque semaine. À l'approche de la mi-février, il y a une petite accalmie dans l'agenda des événements musicaux. C'est souvent le cas en période de vacances scolaires. Il est vrai que janvier a été très dense. Il n'est donc pas étonnant que l'actualité retombe un peu maintenant. En revanche, la semaine dernière, il y a eu beaucoup de concerts sur lesquels nous allons revenir avec l'ami Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Serge et moi, nous avons la chance de recevoir un invité d'honneur dans cette émission, le pianiste François Henry. Il enseigne la pratique de son instrument au Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse et il lance cette année une nouvelle saison de musique de chambre à Toulouse, plus précisément à la Chapelle des Carmélites. Le premier concert a lieu le samedi 1er mars et puis il va y en avoir deux autres en avril et trois en juillet. François Henry va nous en dire plus sur cette saison et son concept en seconde partie de ce numéro. Pour l'instant, place à l'actualité musicale la plus récente avec Serge Chauzy. Retour arrière.
Mélomanie. L'agenda.
Bienvenue à tous les deux, très heureux de vous accueillir pour la première fois à Mélomanie, François Henry. Nous allons ouvrir ce retour arrière avec le concert donné par les Gesualdo Six à Saint-Pierre-des-Cuisines, mardi dernier, le 4 février. C'était aussi une première, puisque le sextoir vocal britannique ne s'était jusqu'alors jamais produit à Toulouse. Nous la devons aux Arts Renaissants, ça a été un très grand moment de musique. Serge, pour tous les amoureux de musique vocale a cappella, c'était vraiment le concert à ne pas rater.
Absolument. Je voudrais quand même préciser que la semaine dernière, nous avons assisté à trois concerts de très haut niveau et redire à quel point Toulouse est favorisée par l'activité musicale. Donc l'UNESCO ne s'est pas trompé en nommant Toulouse ville des musiques. Vraiment, c'est un grand plaisir. Alors, ce concert qui était la quatrième rencontre de la saison des Arts Renaissants, donc accueillait à Toulouse pour la première fois six chanteurs qui constituent ce Gesualdo Six. Alors, c'est un ensemble qui vient de Grande-Bretagne. On sait que la Grande-Bretagne représente un peu la terre d'élection des ensembles vocaux. On le sait, nous avons à Toulouse un grand organisateur qui est Marc Hopstadt, qui a fondé la maîtrise de Toulouse liée au conservatoire, et la qualité qu'il obtient avec ces jeunes chanteurs est formidable. Alors là, ici, il y avait donc six chanteurs, je voudrais quand même les nommer, Guy James, Alasdair Austin, qui sont tous deux contre-ténors, Joseph Wicks et Josh Cooter, qui sont deux ténors, et puis Michael Craddock, baryton, et Owen Park, basse. Owen Park, c'est donc le fondateur de cet ensemble qui date de 2014, donc c'est un ensemble d'une dizaine d'années. Alors, je dois dire, comme vous avez dit au début, c'était excellent. D'une part, la qualité individuelle de chacun des chanteurs, et ensuite, l'incomparable richesse de leur combinaison. Il y a un ensemble formidable. Alors, c'est évident de dire qu'ils chantent parfaitement juste, que c'est très précis, que la cohésion, la clarté de la diction constituent en fait les éléments techniques sur lesquels ils construisent vraiment des interventions de très haute qualité. En plus, c'était une sorte de spectacle, puisque au chant se combinaient des déplacements des chanteurs dans l'espace de l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines, qui, je dois dire, est parfaitement adapté pour ce genre de manifestation. Et puis alors, il faut redire une chose incroyable, c'est l'ouverture et la diversité de ce programme musical. Puisque alors, ça commence par trois compositeurs de musique ancienne, de musique du Moyen-Âge, musique baroque pour certains, Thomas Tallis, John Shepard, Alonso Lobo. Là, c'était déjà trois volets d'un même répertoire, avec notamment la pièce d'Alonso Lobo, qui est un Espagnol, qui est mort en 1617. C'était proprement hypnotique. On avait l'impression d'être dans un autre monde magnifique. Et puis à ceci a succédé deux pièces de musique contemporaine, dont l'une de la compositrice Donna McKivitt, donc Louen, ça s'appelle, avec quelques petites dissonances, et puis une pièce de Jonathan Sears, avec une expression de la douleur incroyable, et ça passe très bien, les transitions sont parfaites. D'autant plus que La suite, c'était en remonter encore plus loin, puisque c'était une pièce d'Hildegard von Bingen, la grande compositrice dont la pièce était chantée par le seul contre-ténor, d'ailleurs, vraiment magnifique. Puis de nouveau, une pièce de musique d'aujourd'hui est signée justement du directeur de l'ensemble, Owen Park, avec vraiment, là aussi, un soliste contre-ténor au milieu de ses collègues, dispersés autour de lui. C'était vraiment très touchant.
Qui, eux, étaient à bouche fermée, la compagnie à bouche fermée.
Exactement. Mais alors là, on peut dire qu'on entendait des voix d'anges, là, absolument.
Il y avait quelque chose, je vous l'ai dit d'ailleurs pendant le concert, d'inhumain. On se demandait d'où pouvaient venir ces voix.
Ça vient d'ailleurs. Oui. La perfection est telle qu'on dit que ça ne peut pas être humain. Eh bien si, pourtant. Donc avec d'autres pièces, alors comme des pièces de Luca Marenzio, de Palestrina, grand compositeur lui connu depuis longtemps, avec certaines pièces qui témoignent d'une blessure. Ça n'est pas simplement élégiaque, hein. Ça peut être très, très sensible.
Douloureux même, oui.
Douloureux,
par moment,
oui, exactement, exactement. Il y a quand même eu une pièce de Gesualdo, tout de même, quand on s'appelle Gesualdo Six. Et alors, moi, l'impression que m'a donnée cette pièce, c'est que c'était la pièce la plus moderne de tout le programme. Parce qu'on connaît les modulations, les harmonies de Gesualdo. C'est révolutionnaire, complètement révolutionnaire. Quand on pense qu'il est mort en 1613, enfin, c'est incroyable. Et puis, d'autres pièces, alors, de nouveau contemporaines, dont une de Johanna March, qui s'intitule Fading. C'était d'ailleurs
le titre du programme.
Le titre de tout le programme. Alors, avec des accords prolongés, vraiment très touchants. Et puis, une pièce aussi de Velio Tormis. Il n'est pas le plus connu des compositeurs, hein, avec beaucoup de subtilité. Et puis, encore une pièce, Oh Little Rose, de Gerda Bloch-Wilson, une pièce contemplative. Et ça s'est achevé avec une incursion dans le romantisme, puisqu'il s'agissait d'une pièce de Josef Rheinberger, une pièce très intense, qui s'appelle Abendlied, c'est-à-dire Chant du soir. Vraiment, une variété d'expressions, de subtilité, de finesse, qui était magnifique. Ils ont donné un bis, puisqu'ils ont été extrêmement applaudis, et ils ont donné un bis de nouveau de Thomas Talist. La boucle était bouclée. On revenait à la première pièce qui était donnée dans ce programme. Donc, cette pièce est enchantée, sans partition d'ailleurs, par les chanteurs. C'est dire leur familiarité avec ce répertoire.
Oui, c'est un programme d'ailleurs, Fading, qui a fait l'objet d'un enregistrement. Il y avait plusieurs CD des Gesualdo Six qui étaient en vente, dédicacés par les chanteurs à la fin du concert. Et il y avait Fading. Bon, c'était magique cette soirée, vraiment.
Complètement.
C'est le mot, je crois.
Complètement, vraiment. On était dans un autre monde, on était ailleurs.
Je pense, alors c'est pas à leur faire injure, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'ensembles vocaux en France qui sont capables de produire une telle qualité vocale, une telle pureté de son. Hélas, avec ses timbres magnifiques. Mais bon, c'est la tradition anglaise,
qui
remonte à très très loin et qu'ils entretiennent. Et pour illustrer tout ce que nous venons de dire, tout ce que vous venez de dire, Serge, et montrer à quel point ce sextoire vocal est extraordinaire, voici les Gesualdo Six qui chantent Abendlied de Josef Rheinberger. Abendlied de Josef Rheinberger, chanté par The Gesualdo Six. Prochain concert de la saison des Arts Renaissants le jeudi 6 mars à 20h à l'église Saint-Jérôme de Toulouse cette fois-ci, avec le trio formé par les gambistes Vittorio Guglielmi et Christophe Urbanetz avec le luthiste Luca Pianca pour un programme baroque français avec notamment des pièces de Marin Marais. Encore une très belle soirée en perspective. Retour maintenant sur les concerts de l'Orchestre National du Capitole donnés les jeudis 6 et vendredi 7 février à la Halle aux Grains. Double concert donc, dirigé par le chef catalan Josep Pons, bien connu et très apprécié à Toulouse, entre autres par les musiciens. Le programme était une forme d'hommage à Maurice Ravel, dont nous célébrons les 150 ans de la naissance cette année. Il y avait aussi un soliste invité, le pianiste espagnol Javier Perianès. Et Serge va nous rappeler la raison de la présence de ce musicien, sachant que Ravel n'était pas le seul compositeur au menu de la soirée.
Et non, il y avait également son collègue d'au-delà des Pyrénées, donc Manuel de Falla, puisqu'il y avait aussi au programme Les Nuits dans les Jardins d'Espagne, dont le soliste était Javier Perianès, ce grand pianiste espagnol, excellent pianiste, qui a déjà joué à Toulouse, notamment pendant le festival Piano Jacobin. Oui. Et puis alors, Josep Pons, oui, alors là, on peut dire qu'il a tissé avec les musiciens de l'orchestre de véritables liens à la fois profonds, chaleureux. Donc, les musiciens sont ravis de le voir et lui est très heureux de venir.
Il vient tous les ans. Hein.
Ah oui, oui, oui. Donc, c'était un beau moment avec des pièces donc, de Ravel, avec tout d'abord Alborada del Gracioso, bon, évidemment. Et puis, après Les Nuits dans les Jardins d'Espagne, il y avait la Rhapsodie espagnole et le boléro, fameux boléro.
L'inévitable boléro.
Alors voilà, l'œuvre classique la plus jouée au monde. Donc on peut dire que c'est probablement la raison pour laquelle les deux concerts ont fait salle comble.
Et oui, donc, c'est incroyable. Hein. Ah deux soirées de suite avec
de
2000 personnes.
Ah oui, oui, oui.
Ça a 4000 été... personnes en deux jours.
Ah oui, oui.
Il ne restait plus une place de libre.
Non, plus
c'est
rien.
Ce que m'a confirmé Jean-Baptiste Fra, le délégué général de l'orchestre.
Et alors donc, le concert a débuté avec cette aubade du bouffon, en quelque sorte, que Ravel a orchestré en 1918, puisque c'était d'abord une pièce pour piano. Et puis là, on a retrouvé le style de Josep Pons, qui a fait vraiment, on peut le dire, flamboyer les couleurs et les contrastes dans cette pièce magnifique. Et puis, c'est là qu'est arrivé Javier Perianès pour être le soliste des Nuits dans les Jardins d'Espagne avec les trois beaux mouvements de ce pseudo-concerto en quelque sorte. Alors une pièce que Falla qualifiait d'impression symphonique. Et c'est comme ça que ça a été exécuté, puisque avec d'abord ce mystère du premier volet, au Generalif, avec quelques accents dramatiques, et puis la deuxième pièce, Danza Lejana, donc une autre danse, et puis enfin, dans les jardins de la Sierra de Cordoue, avec un dialogue entre le piano et l'orchestre qui, par moments, devenait presque obsessionnel, avec un sens aigu des contrastes, donc un très beau moment qui a été très apprécié par le public, qui a beaucoup applaudi, et donc il est revenu, et le 6... Pendant le concert du 6, à la fin de sa prestation, il a joué en bis la Serenada Andaluza du même Manuel de Falla, à laquelle il a insufflé une poésie d'une douceur incroyable.
Voilà, c'est la musique qui coule dans ses veines, hein, Javier Perianès.
Ah, oui,
et le lendemain, le bis, c'était encore du Falla. Bon, ça, il a été tout à fait cohérent, mais c'était la fameuse danse rituelle du feu,
oui.
Extrait du ballet Le Tricorne de Manuel de Falla, et que bon, souvent les pianistes espagnols jouent en bis ou carrément dans leur programme.
Hein. Oui, oui, absolument. Donc c'est bien, il n'a pas joué le même bis dans les deux concerts. Très bien. Et puis là, la deuxième partie du concert donc s'ouvrait sur la Rhapsodie espagnole, dans sa version de 1907. Là aussi, c'était une œuvre écrite initialement pour le piano. Ravel, évidemment un orchestrateur de génie, en a fait une œuvre d'une grande beauté, avec cette poésie du prélude à la nuit, puis la vivacité des deux mouvements de danse malagueña à Banera, et puis alors une feria finale qui a explosé d'énergie et de vitalité, on peut dire, sous la direction de Josep Pons. Et enfin, donc la conclusion de la soirée, alors on ne pouvait susciter plus d'enthousiasme, le célébrissime boléro a été donné dans cette obsession incroyable. Obsession, alors il m'est revenu une anecdote qu'on raconte, un témoin qui accompagnait Ravel le soir de la création raconte qu'une spectatrice aurait crié « au fou !» et Ravel aurait alors déclaré « celle-là, elle a tout compris ». Exactement.
C'est espèce de long crescendo, effectivement, on peut se dire, mais comment on arrive à faire un chef-d'œuvre avec ça? Ben, il faut s'appeler Ravel.
Eh bien oui, exactement. Alors, il faut souligner l'intervention de la Caisse Claire, qui était tenue par Thibaut Bichaillet, un des percussionnistes de l'orchestre. Alors, c'était particulier parce qu'elle émerge à peine du silence au début.
Ah ben, au début,
on l'entend à peine.
On la voit plus qu'on l'entend.
Exactement.
Quand on voit Thibaut Bichaillet.
Exactement. Mais enfin, c'est quand même elle qui marque le tempo implacable du début à la fin. Et donc, ce tempo ne varie pas d'un iota pendant tout le mouvement, ce qui est demandé par Ravel d'ailleurs. Et puis alors, ce que je voudrais souligner, c'est la qualité de chaque solo. Puisque
tous, ils ont leur petit moment de gloire. Là.
Ah, complètement. Hein. Ah, c'est extraordinaire. Alors, on ne peut pas tous les nommer, mais je voudrais quand même distinguer Louis Ognoa, qui joue du trombone. Et alors, ce solo de trombone, d'après tous les trombonistes, est redoutable. Il est très difficile. Elle l'a joué avec toutes les nuances, les glissandis qu'il faut au bon moment. Donc, bravo à elle. Hein. Et puis alors, quand on arrive près de la fin de ce boléro, il y a ce seul changement de tonalité de toute l'œuvre qui intervient. On a l'impression que tout s'éclaire. Et puis, l'ultime explosion arrive au terme d'un crescendo complètement irrésistible. Et ça a eu un vrai triomphe, évidemment.
Ces deux soirées étaient donc avant tout un hommage à Maurice Ravel qui rappelait le lien très fort entre le compositeur français et l'Espagne, pays où il n'a pourtant jamais mis les pieds.
Et non.
Voici donc Alborada del Gracioso, au bas du bouffon, au bas d'un plaisantin, on peut traduire comme on veut, une pièce extraite à la base des Miroirs de Maurice Ravel qui était composée pour le piano. Voici la version orchestre dirigée par Joseph Ponce. Alborada del Gracioso, au bas du bouffon, extrait des Miroirs de Maurice Ravel, dans une version orchestre dirigée par Joseph Ponce. Prochain concert de l'Orchestre National du Capitole, ce samedi 15 février à 18h à la Halle aux Grains, où Jean-François Zigel va présenter justement un programme intitulé « Mon ami Ravel ». Le dernier concert sur lequel nous voulions revenir a eu lieu lundi à la Halle aux Grains, où le cycle des grands interprètes accueillait Evgeny Kissin. Le grand pianiste d'origine russe avait réuni autour de lui trois musiciens pour jouer des sonates de Dimitri Shostakovich. Serge, vous étiez présent à cette soirée et vous allez pouvoir nous rappeler qui étaient les trois musiciens en question avant de nous faire part de vos impressions sur ce concert.
Alors, ce concert était organisé pour célébrer le cinquantenaire de la disparition de Shostakovich.
Mort en 75, effectivement.
Et oui. Donc voilà, alors c'était un concert qui réunissait quatre musiciens, dont Evgeny Kissin est le pivot, puisqu'il intervenait dans les trois œuvres qui ont été données, trois œuvres donc de musique de chambre, trois sonates, avec une sonate pour violoncelle avec Gauthier Capuçon comme soliste, une sonate pour violon et piano avec Gidon Kremer, grand violoniste bien connu, et puis la sonate pour alto et piano avec un altiste que je ne connaissais pas pour ma part, Maxime Rizanov, et qui m'a stupéfait par la qualité de son jeu, de sa sonorité. C'était vraiment la révélation du concert ce soir-là. Donc, le concert a débuté avec la sonate pour violoncelle et piano. Les trois sonates qui se suivaient étaient dans l'ordre de composition, on peut dire, puisque la première, sonate pour violoncelle, était composée par le jeune Shostakovich, en ré mineur, quatre mouvements, avec déjà, on retrouve tout Shostakovich. Hein. Il faut dire que tout le concert était plus noir que noir, hein. C'était incroyable. La noirceur sublime de Shostakovich.
C'est rarement de la grande rigolade.
Oui, exactement. Et quand ça a l'air d'être de la rigolade, c'est que ça sous-entend des choses...
En revanche, il y a de l'humour noir.
Ça, oui, c'est en général de l'humour noir. Donc, cette première sonate pour violoncelle a mis en évidence le talent que l'on connaît de Gauthier Capuçon, avec la finesse, l'intelligence du jeu de Evgeny Kissine au piano, avec dans ce premier, il y a quatre mouvements, donc le premier mouvement qui est un peu un chant désespéré, avec comme une plainte qui s'exhale, et puis on a l'allegro qui, comme souvent chez Shostakovich, est plein de sarcasme et de moquerie, un largo plein de douleur à lui par contre, et un allegro un peu grimaçant, il faut dire. Hein. Donc ça, c'était la première des œuvres données. La deuxième, la sonate pour violon et piano, dont faisait intervenir Gidon Kremer, un violoniste très sensible, très impliqué dans ce qu'il joue, avec les trois mouvements de sa sonate pour violon et piano, qui elle est en sol majeur et qui est un opus 134, de la maturité donc de Shostakovich, avec un andante élégiaque, d'ailleurs il est qualifié de pastoral, et puis quand même avec quelques grincements, hein, une sorte de course à l'abîme. Et le deuxième mouvement, Allegretto, qui est marqué Furioso, on voit ce que ça veut dire, qui était à la fois d'une violence incroyable. Hein. Et puis le largo final, parce que ça finit, contrairement à la plupart des sonates traditionnelles, souvent ce sont deux mouvements vifs qui encadrent un mouvement lent, là c'est l'inverse. Le final est un largo, qui est une variation sur un thème, qui est d'une noirceur désespérée, comme très souvent chez Shostakovich. Et enfin, la sonate pour alto, qui occupait toute la deuxième partie, c'est la plus longue d'ailleurs, une des dernières œuvres de Shostakovich, en trois mouvements, avec un moderato qui est par moments à la limite du silence. Vraiment, c'est glaçant. Hein, l'allegretto, le mouvement rapide, central, alors on a l'impression qu'il s'agit là d'une danse macabre, alors que l'adagio est une profonde méditation. En plus, ce mouvement final est plein d'obsessions. Il rappelle, il reprend des thèmes à la fois de son propre répertoire, notamment le thème de son 13e quatuor, par exemple, mais surtout alors le thème obsessionnel qui revient à un point que c'est effarant, c'est la sonate au clair de lune de Beethoven, avec le rythme de l'ouverture de cette sonate qui devient un combat et une obsession absolue. Et ça s'achève dans un silence, on peut dire un silence de mort, puisque c'est un décrescendo qui va vers le néant.
Vers l'abîme.
À l'abîme complètement, au point que la salle n'a pas osé réagir tout de suite. Le silence s'est prolongé pendant très longtemps.
C'est bien quand la salle n'applaudit pas tout de suite, je trouve.
Ah oui, et ben, surtout là. Ah non, c'était une émotion très profonde, à la fois ce concert et surtout ce final.
Est-ce qu'il y a eu un bis ?
Il n'y a eu aucun bis, puisque se succédaient les trois accompagnés par Evgeny Kissine. À la fin, ils sont revenus quand même tous les quatre salués, mais il n'y a pas eu de bis. Et je trouve qu'après la fin de cette sonate pour alto et piano, ça aurait paru incongru,
oui,
complètement incongru.
Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Eh bien, nous allons conclure cette première partie d'émission en écoutant Evgeny Kissine. Là, on va l'écouter seul au piano. J'ai pas de pièce de Shostakovich, mais on va rester en Russie tout de même avec cette interprétation de la célèbre vocalise de Serge Rachmaninov. Thank you. la vocalise de Serge Rachmaninoff, interprétée par Evgeny Kissin. Notez que le concert suivant des grands interprètes a lieu le lundi 17 mars à 20h à la Halle au Grain, où va se produire Samara Joy, une des grandes voix actuelles du jazz. Fin de ce retour arrière, une courte virgule musicale, et l'on se retrouve avec Serge Chosy et François Henry pour évoquer la nouvelle saison de musique de chambre qu'ils lancent à la Chapelle des Carmélites. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie. Retour arrière.
L'agenda de Mélomanie est donc consacré à la nouvelle saison de concerts que lance à Toulouse le pianiste François Henry à la très belle chapelle des Carmélites. Je l'ai précisé en début d'émission, vous enseignez le piano au Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse depuis quelques années. Qu'est-ce qui a motivé cette idée de créer une saison de musique de chambre aux Carmélites? Je crois savoir qu'il y a entre autres à la base un piano bien particulier dont vous êtes l'heureux propriétaire et que vous avez déposé à la chapelle des Carmélites.
Oui, tout à fait. Une première initiative en fait, avait été imaginée en Anjou, à l'époque où j'étais parisien encore. J'avais sollicité beaucoup de châteaux autour de Paris, mais je n'avais pas réussi à trouver le lieu vraiment adéquat et adapté à pouvoir recevoir cette initiative. Donc il y avait une première édition en Anjou en 2018. Ensuite, ça a été un petit peu compliqué avec les années Covid et j'ai ensuite été nommé à Toulouse donc en 2020. Depuis cette date, donc, j'ai essayé d'imaginer une saison sur Toulouse, comme Toulouse est maintenant donc, ville des musiques labellisée UNESCO. C'est une ville avec une richesse, qu'on vient de s'en apercevoir, musicale extrêmement présente, notamment au niveau du piano. On a d'ailleurs aussi au conservatoire la chance d'avoir beaucoup d'élèves pianistes très moteurs, dont beaucoup d'ailleurs rejoignent les conservatoires supérieurs. Mais il me semblait manquer cet aspect de cet intérêt pour le piano historique. Donc nous avions quand même Yasuko Bouvard, qui est une très très grande pianofortiste, également claveciniste, clavicordiste, organiste, donc qui avait déjà porté un enseignement du pianoforte jusqu'à sa retraite. Et donc j'ai été heureux de pouvoir reprendre un petit peu le flambeau de cette initiative au niveau pédagogique, puisque j'anime des quelques ateliers donc de piano historique au conservatoire, pas seulement le pianoforte, mais le piano historique élargi, donc avec l'accès à des copies de pianoforte, comme celle qui appartient au Capitole ou celle qui appartient aussi au conservatoire, et ensuite donc des instruments originaux de l'époque romantique et éventuellement même début moderne pour le par exemple avec l'accès à des pianos français du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe siècle. Donc en parallèle de cet aspect pédagogique, bien sûr un aspect artistique, avec donc la chance que j'ai eue grâce à l'intermédiaire de Michel Crosset, que je remercie au passage.
L'ancien directeur du Conservatoire de Toulouse.
Voilà. Donc il a permis ce lien avec la direction des musées et monuments de la ville de Toulouse, avec l'accès donc à la chapelle des Carmélites, qui n'a pas d'instrument à demeure, même si c'est un lieu qui accueille beaucoup de concerts et en général avec des pianos modernes qui étaient livrés pour l'occasion. Donc l'idée était d'installer un piano à demeure, donc un de mes instruments, et donc il se trouve que j'ai 6 instruments du 19e siècle que j'avais acquis à partir de 2013, je crois. Cette initiative était partie du constat qu'on a un accès quand même assez réduit à ce type d'instrument en France. On a accès relativement facilement à des copies d'instruments de l'époque de Mozart, par exemple, dont beaucoup de conservatoires se sont dotés. Mais en revanche, pour l'époque un peu plus tardive, milieu 19e, fin 19e, on a relativement peu d'instruments. On a des instruments français, donc représentés notamment par les principales marques Pleyel et Erard. Mais comme on avait ces grands facteurs français, on a moins accès aux grandes marques viennoises ou anglaises de l'époque. Donc c'est pour ça que j'ai aussi acquis un Broadwood de 1842, que j'espère aussi mettre à contribution d'un lieu toulousain à l'avenir. Peut-être le château de la Reinerie, voilà, à voir. Et donc pour la chapelle des Carmélites, j'ai imaginé ce piano viennois qui est le même instrument que celui que possédait Brahms.
Oui, c'est un Streicher.
Exactement.
De 1860, celui-ci.
Tout à fait.
Bravo. C'est-à-dire exactement une copie, j'allais dire, enfin, qu'il était restauré entièrement, mais il ressemble à celui qu'avait Brahms parce que c'était sa marque de piano préférée.
Hein. Exactement. Et notamment pour toutes les pièces intimes, les Klavierstücke, il l'a chéri jusqu'à la fin de sa vie, même si pour les grands concertos, il avait, on sait qu'il préférait peut-être les Bechstein, par exemple, ou des pianos allemands plus puissants. Mais on a des témoignages, d'ailleurs, dans ses lettres à Clara Schumann, qu'il affectionnait particulièrement la sonorité intime et la qualité de sonorité, notamment avec sa registration très particulière, liée à ces instruments qui sont en fait l'héritier des instruments de Mozart.
Hein. Oui, donc Johann Baptist Streicher, facteur d'instruments viennois, mort en 1871, que donc ont connu, je pense, tous les grands pianistes de cette époque qui vivaient à Vienne, ou même peut-être plus largement dans les pays germaniques.
Tout à fait, c'était d'ailleurs une star à l'époque, il est enterré tout près de Beethoven par exemple, à Vienne. C'était une personnalité vraiment très... et le père aussi de Johann Baptist Streicher, qui était un ami proche de Beethoven, et Johann Baptist ensuite, ami de Brahms, etc.
Alors on va parler de votre saison là maintenant, hein, puisqu'elle commence le 1er mars, c'est tout bientôt. Donc le concept, ce sont des concerts de musique de chambre autour de ce piano, mais on ne va pas avoir que du piano seul, il n'y aura pas que des récitals de piano seul, il va y avoir évidemment du lead, inévitable, mais aussi des duos, des trios, des quatuors avec piano, sous des formes, des déclinaisons assez différentes, on va le voir. On va donc parler de ce premier concert le samedi 1er mars à 19h30, bien noter l'horaire, c'est pas 20h, c'est pas 20h30, c'est 19h30, et c'est vous-même qui vous y produisez en duo avec la violoniste Gilone Gobert, excellente musicienne que l'on connaît dans notre région puisqu'elle a souvent joué avec l'orchestre des Passions de Montauban. Votre programme est intitulé « L'Europe musicale au tournant du 19e siècle, du classicisme au pré-romantisme ». C'est pas au romantisme, c'est au pré-romantisme. Tout ça est très précis. Qu'est-ce qu'on va y entendre ?
Il y aura quelques auteurs bien connus, donc comme Beethoven et également Schubert, dont je vais jouer un impromptu. Donc Beethoven avec la sonate du printemps,
la cinquième.
Une œuvre assez heureuse et épanouie. Et en regard, donc justement, par rapport à cet aspect européen, j'ai souhaité mettre en relation cette sonate avec un grand auteur français de l'époque, également un compositeur anglais. Alors Hounslow plutôt pour le côté français, puisque c'est vrai qu'Hounslow a un lien avec l'Angleterre.
Par oui, son père, bah, le nom sûr. Est anglais.
Tout à fait. Mais il s'est ensuite installé à Clermont-Ferrand, d'ailleurs en dehors du cercle parisien. Mais c'est un auteur vraiment remarquable, avec beaucoup de pièces pour piano, des quatuors à cordes, et des sonates justement, violon et piano, donc de l'époque de Beethoven et ensuite un peu plus tardive. C'est quand même un de nos grands auteurs français de l'époque romantique.
Et il y aura George Pinto, c'est ça ?
Alors George Pinto, c'est effectivement un compositeur anglais remarquable, dont les Anglais contemporains estimaient que c'était il aurait pu être le Mozart anglais, mais malheureusement, il est décédé à l'âge de 20 ans seulement. Il a eu le temps quand même de nous laisser des sonates pour piano et des sonates pour violon piano, puisqu'il était à la fois très brillant pianiste et très brillant violoniste, comme d'ailleurs Mozart. Des sonates qui dénotent d'une étonnante maturité, peut-être annonciatrice un peu déjà de Schubert ou de...
Nous allons avoir un aperçu de ce premier concert, celui du samedi 1er mars, avec le très beau et très connu premier mouvement Allegro de la sonate numéro 5, Le Printemps de Ludwig van Beethoven. Le premier mouvement Allegro de la sonate numéro 5, Le printemps de Beethoven, interprété ici par Itzhak Perlman et Vladimir Ashkenazy. C'est une des trois pièces programmées lors du premier concert de votre nouvelle saison, celui que vous donnez avec la violoniste Gilone Gobert le samedi 1er mars à 19h30 à la chapelle des Carmélites. Gilone Gobert qui sera à cette période dans la fosse de l'Opéra National du Capitole, puisqu'elle est aussi le violon solo de l'orchestre des Talents Lyriques, dirigé par Christophe Rousset. Donc voilà, l'occasion a fait le larron, sans doute c'est pour ça qu'elle a pu être présente pour votre premier concert, même si je crois que vous la connaissez depuis longtemps en fait.
Tout à fait, oui. Nous étions collègues conservateurs de Chantilly.
Donc il y a des liens anciens, voilà. Évidemment. Alors, les deux concerts suivants ont lieu en avril, les samedis 5 et dimanche 6, à chaque fois à 19h, cette fois-ci, pas 19h30, 19h. Le samedi 5, vous proposez un récital de piano donné par Jérôme Grandjean, musicien qui enseigne au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon. Quel programme va-t-il jouer ?
Alors, donc Jérôme Grandjean a décidé de nous proposer bien sûr un programme germanique en lien avec la facture de l'instrument, avec les Davidsbündler de Schumann, magnifique cycle de jeunesse.
Et qu'on n'entend pas si souvent.
Tout à fait. Également la Vallée d'Obermann de Franz Liszt.
Donc les années de pèlerinage.
Voilà, Franz Liszt qui a... tout à fait. On sait d'ailleurs que Liszt avait une relation très proche justement avec Johann Baptist Streicher, le facteur de l'instrument. On connaît la relation avec Erhard, mais il y a aussi une relation avec la facture viennoise, et également donc trois intermezzi de Brahms, avec le lien avec l'instrument qui est évidemment très, très serré.
C'est en plus 117, hein, je crois, les
intermezzi. C'est ça, c'est ça.
Les opus 117
les dernières
de Brahms,
pièces de Brahms. Quoi.
Très, très,
tout
très,
à fait.
Très, ouais, très, très beau.
Les quatre derniers opus, ouais, 116 à 119.
Vraiment oui. Magnifique. Alors, Jérôme Grandjean, il a fait paraître un certain nombre de CD déjà. Il y a un CD Schumann, mais il y a aussi Debussy et Janáček.
Ah, oui. CD
Janáček.
Ce qui est plus rare.
Donc, pianiste... assez éclectique. Hein,
également l'intégrale du clavier bien tempéré de Bach.
Et de Bach, oui, j'oubliais, vous avez raison. J'étais resté plutôt sur les romantiques, mais oui, tout à fait. Voilà, excellent pianiste Jérôme Grandjean. Et pour découvrir le jeu et la sonorité de Jérôme Grandjean, nous allons l'écouter dans un extrait de la grande humoresque Opus 20, numéro 1 de Robert Schumann. C'est le premier mouvement, Einfach. La grande humoresque Opus 20 numéro 1 de Robert Schumann et son premier mouvement Einfach sous les doigts de Jérôme Grandjean, extrait d'un CD qu'il avait enregistré en 2019. Jérôme Grandjean donne donc un récital à la chapelle des Carmélites le samedi 5 avril à 19h et le lendemain, le dimanche 6 avril, toujours à 19h et au même endroit, vous présentez un concert sous-titré Le Lied Germanique avec le baryton basse Adrien Fournaison, accompagné par la pianiste Anne Le Bozec. Voilà encore une musicienne qu'on connaît bien Toulouse et qu'on aime beaucoup. Elle a souvent accompagné des chanteurs lors de récitals ou de concerts donnés à l'Opéra National du Capitole. On l'a vu aussi à plusieurs reprises aux côtés de son amie Sandrine Tilly, la flûtiste solo de l'Orchestre National du Capitole. Et puis elle dirige la classe d'accompagnement au CNSM de Paris. Grande musicienne et grande pédagogue donc. Adrien Fournaison, on le connaît moins à Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement ?
Jeune chanteur en plein essor, effectivement, qui est bien sûr passé, comme moi aussi auparavant, par la classe d'Anne Bozek. Et Yann tenait justement aussi à présenter des nouveaux talents à la ville de Toulouse. Donc
ce qu'elle fait un peu partout d'ailleurs, hein, parce que maintenant il y a de nombreux chanteurs qui sont passés par la classe d'accompagnement d'Anne Bozek à Paris et qui font leur chemin pour certains de très très brillantes façons, comme Marc Moyon par exemple, qui a été un de ses élèves. Alors Adrien Fournaison, que va-t-il chanter accompagné par Anne Bozek?
Pour l'instant, je n'ai que les deux auteurs.
Vous n'avez pas les pièces.
Voilà, on est sur Schubert et Brahms. Le détail devrait arriver sous
donc
peu.
Donc ce sera du lead, évidemment.
Bien sûr, voilà, du lead allemand et donc plutôt sur le romantique. Voilà, on aura l'aspect plus classique sur le mois de juillet ensuite.
Eh bien, nous allons pouvoir entendre la voix profonde d'Adrien Fournaison. Nous l'écoutons maintenant dans un extrait des Gesänge des Harfners, un cycle de Lieder de Franz Schubert. Le baryton basse Adrien Fournaison chantait Harfenspieler, un extrait des Gesänge des Harfners, cycle de Lieder de Franz Schubert. C'est donc lui qui donne le troisième concert de la saison le dimanche 6 avril à 19h au Carmélite, accompagné au piano par Anne Bozek. Les trois concerts suivants, les trois derniers de cette première saison, sont programmés en juillet, les 10, 11 et 12, tous à 19h30. C'est une série sous-titrée « Vienne à l'aube du romantisme ». Et le jeudi 10, vous présentez un duo assez inhabituel entre un guitariste et une pianiste, Mario Carrera à la guitare et Magali Guamar au piano. Est-ce que c'est la première fois qu'ils vont jouer ensemble, ces deux-là?
Alors effectivement, c'est un duo en formation qui avait ce souhait vraiment de mettre à l'honneur cette rencontre entre ces deux instruments et qui cherchait des occasions de jouer avec piano historique. Et c'est pour cela que Magali Guamar est venue vers moi par rapport à cet intérêt partagé. On a effectivement tout un répertoire, par exemple aussi de harpe et piano et en parallèle donc aussi guitare-piano, qui il est vrai est difficile à défendre avec piano moderne du fait de particularités instrumentale assez la guitare et de la harpe qui ont un son plus confidentiel. En revanche, le piano forte permet une adéquation sonore beaucoup plus évidente entre les instruments et on a tout un répertoire existant à défendre.
Voilà, alors Mario Carrera est portugais, Magali Guamar est française. Bon, ils ont tous les deux une belle carrière derrière eux. Hein. Ce ne sont pas des jeunes musiciens, voilà. C'est vraiment des musiciens d'expérience. Puis il va y avoir un programme assez incroyable. Il y a du François de Fossa, alors c'est pas un compositeur qu'on est habitué à entendre, en tout cas à Toulouse, mais il y aura aussi Mauro Giuliani, il y aura Hummel, Johann Nepomuk Hummel, Joseph Kaspar Merz, ça les guitaristes le connaissent bien, et puis un certain nombre d'autres. Donc ça va être extrêmement varié, extrêmement original, et j'avoue que c'est une curiosité pour moi. Ça
une compositrice aussi, avec Mariana von Martinez.
Exact, Mariana von Martinez. Bon, il y aura des solos de guitare, hein, il n'y aura pas que...
Il y aura un peu de piano solo, un petit peu de guitare solo et différents duos.
Alors, on va écouter Mario Carrera jouer justement une pièce soliste pour guitare. Il s'agit d'une pièce de François de Fossa, inspirée d'un andante d'une symphonie de Joseph Haydn. Andante d'une symphonie de Joseph Haydn, composée par François de Fossa, interprétée par Mario Carrera. Le guitariste est en concert à la Chapelle des Carmélites le jeudi 10 juillet à 19h30 avec la pianiste Magali Guamard. Le vendredi 11 à la même heure, vous accueillez de nouveau un pianiste pour un récital en solo. Toujours dans le cadre de la série Vienne à l'aube du romantisme, il s'appelle Orlando Bass. Et il est français, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, français d'origine britannique certes. Il propose un programme de pièces de Beethoven et d'Anton Diabelli. Déjà, ce n'est pas commun, mais en plus, il va parfois improviser dessus.
Tout à fait. On essaye aussi de développer des concepts un petit peu originaux. Les variations Diabelli de Beethoven, c'est un monument de la littérature de piano. Orlando, qui est un ancien camarade du Conservatoire de Paris, avait imaginé, alors il vit entre Berlin et Paris, et donc il a expérimenté une sorte de nouvelle expérience au travers de ces variations Diabelli, avec des jeux de devinettes avec le public, laisser le public imaginait différentes influences et il joignait aussi des improvisations. Donc il y aura ce concept, ce sera aussi la surprise pour moi. Et il ne faut pas oublier que ces 33 variations sont en fait à l'origine une commande de Anton Diabelli qui a composé une valse et qui a proposé donc à tous les musiciens importants de Vienne de l'époque de composer une ou plusieurs variations, dont notamment Schubert, Liszt, Czerny. On a une énorme somme comme ça de compositeurs qui ont participé, mais Orlando proposera aussi certaines variations de ses autres compositeurs.
Ouais, ça c'est encore une curiosité, Serge Chauzet.
Ah ben oui, puisque à part Beethoven sur ses variations Diabelli, les autres variations, on ne les entend pas souvent. Hein.
Tout à fait. Tout
les
à
autres
fait.
Compositeurs, c'est...
Donc il y aura les 6 bagatelles opus 126 aussi de Beethoven, et puis donc des pièces d'Anton Diabelli lui-même. Voilà, bon, donc notez bien cette date, là, le vendredi 11 juillet à 19h30 à la Chapelle des Carmélites avec Orlando Bass. Et puis dernier concert de cette série, Vienne à l'aube du romantisme, et dernier concert de la saison d'ailleurs, samedi 12 juillet, toujours à 19h30, on retrouve le lead, et pas n'importe lequel, celui que l'on entend dans Le Voyage d'hiver de Franz Schubert. C'est vous qui allez œuvrer au piano pour accompagner le ténor Marc Schweizer, et vous ne serez pas seul sur scène tous les deux, vous avez aussi convoqué la comédienne Stéphanie Rongeau. Quel va être son rôle? Elle va réciter avant que vous jouiez les textes qui ont inspiré Le Voyage d'hiver.
Exactement. Donc l'idée était d'introduire une forme de un petit peu de mise en scène qu'on va proposer. Et comme c'est aussi on a peu de germanophones à Toulouse, on a essayé de trouver une façon de créer peut-être une intimité plus évidente pour le public non pas en récitant l'intégralité des traductions, ce qui aurait doublé la durée du concert, mais avec quelques extraits forts des leads qui seront chantés par la suite, pour nous conditionner un petit peu à l'écoute. Voilà.
Donc le voyage d'hiver, bah Serge, encore un monument. Hein. On parlait des variations d'Abélie, mais le voyage d'hiver de Schubert.
Deux œuvres de fin de vie d'ailleurs. Hein.
Tout
aussi
à fait.
Bien les variations
presque les testaments musicaux.
Que le voyage d'hiver.
Voilà, donc c'est le duo formé par Marc Schweitzer et François-Henri ici présent qui va donc donner ce voyage d'hiver. Tout ça sera entrecoupé par des interventions de la comédienne Stéphanie Rongeau le samedi 12 juillet à 19h30 à la Chapelle des Carmélites. Je rappelle que le premier concert de la saison est donné le samedi 1er mars à 19h30 à la Chapelle des Carmélites. Donc, le programme est intitulé « L'Europe musicale au tournant du 19e siècle, du classicisme au pré-romantisme » avec la violoniste Gilonne Gobert et vous-même François-Henri au piano. Pour réserver ses places, il faut envoyer un mail à l'adresse pianomuse@yahoo.fr, pianomuse avec un S. Vous avez aussi un site internet www.françoishenri.fr, François-Henri Henri avec un Y. Je signale d'autre part que l'Orchestre National du Capitole est en concert avec Jean-François Zigel à la Halle aux Grains ce samedi 15 février à 18h. Le programme est donc sous-titré « Mon ami Ravel » et la billetterie est en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Tous mes remerciements à Serge Chosy qui a co-animé cette émission avec moi. Et merci bien sûr à François-Henri qui participait pour la première fois à Mélomanie. Il y en aura d'autres. Je remercie également Christophe Aubry à la technique. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant comme d'habitude sur le site web de Radio Présence. Merci enfin à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Très bonne semaine musicale à tous.